sociétés secrètes ont toujours intéressé lecteurs et écrivains. On sait que Balzac s'est frayé un chemin avec l'histoire des 13, et Philippe Solers nous fait lire un roman qui est l'histoire d'une complicité, d'une bande d'amis, roman d'une écriture somptueuse et qui en plus est plein de bonne gaieté française, cette gaieté qu'il récupère car elle nous a un peu trop quittés, au moins dans les lettres, depuis le 19e siècle. Le scénario du livre est un conte mirobolant. Un scénariste a reçu commande d'une adaptation de la Divine Comédie qui deviendra au cinéma Divin Bordel. Les bordels, le personnage principal les a connus dans sa jeunesse, où écrivant une thèse sur Dante, il gagnait sa vie comme valet de nuit. Depuis, il s'est changé en prof de terminale. Est-ce le héros de cœur absolu? Est-ce comme Solers, remarquons-le, c'est tout. Mieux Mozart, Casanova, Fragonard, l'Odyssée, Rodin, Freud, Baudelaire sont ses émules, les bases de sa révélation du monde. Et aussi ses lectures. Ses lectures, c'est une façon d'oublier la gîte de Paris. Le Paris littéraire, où S est toujours le maillot jaune, mais un maillot jaune sans équipe pour l'entraîner et qui se sent un peu perdu car on lui met des bâtons dans les roues. Tout le monde contemporain défile dans ce roman les voyages du pape, le terrorisme arabe, les crises. Mais, dit Philippe Solers, il faut savoir choisir entre l'effervescence et l'œuvre. Philippe Solers a réussi un livre étoffé par la vie, par les rêves et surtout par les voyages de multiples personnages qui donc dialoguent, se tiennent au courant, rêvent les uns des autres. Tous se rencontrent pour dire « j'étais là, telle chose m'advint ». Le cœur absolu, c'est aussi un livre où tous les mythes de l'aventure humaine, sexuelle, passionnelle, vengeresse, et que Philippe Solers se résume dans trois œuvres qui l'inspirent, Homère, la Divine Comédie et les Mémoires de Casanova, tous ces mythes donc préexistent au récit et permettent aux personnages de passer du rang de stéréotype, ce que nous sommes tous dans l'anonymat universel, au rang d'archétype, la grande circonférence de l'archétype qui embrasse toutes les cultures. C'est-à-dire les grandes figures symboliques tirées de la littérature et dont nous rêvons tous, et dont les plus audacieux veulent être la réincarnation. « Mon Faust », disait Valéry. « Mon Don Juan », pourrait dire Philippe Solers, en ce sens, non pas qu'il est Don Juan, mais que Don Juan ou Casanova sont nécessaires à sa création. Comme François, l'un des personnages du cœur absolu, se sent devenir chaman. La révélation sexuelle, comme chez Freud, est fondamentale dans ce livre. Elle se traduit par des extases ou les caresses. Et surtout, la femme aime en général l'homme qui évite d'en être un. Venise est au centre de ce roman, même si tous les chemins ici mènent à Venise. Venise en passant par Paris, par l'Italie, par le Japon et par une île de délices où les femmes se superposent. Si une femme vous aime, écrit Philippe Solers, elle est deux. Là, elles sont comme si elles étaient quatre, qui d'ailleurs se fondent comme les instruments d'un quatuor ou d'un quintet. Donc, au centre du cœur absolu, il y a Venise, où les membres de la société secrète se retrouvent. Venise qui bat de l'aile depuis qu'en 1797, Bonaparte a abaissé la Sérénissime. En vérité, c'est dès le XVIIe siècle que le lion a tourné la page, pour reprendre l'heureuse expression de Philippe Solers, qui se souvient du lion de Saint-Marc tenant l'évangile. La mort de Venise est liée au développement de l'Atlantique. Pourquoi le doge se marierait-il avec une mère qui a cessé d'être la mère d'opulence? Au XVIIe siècle, l'opéra vénitien, on le trouve partout en Europe. Le jeu aussi, les lupanars sont évacués. C'était les vrais pilotis de la fortune de Venise.
Le carnet rouge. Prenons par exemple une note d'année de jeunesse. Petite année. Sumatra, Bleuvert, plage, Varec, Mouche. 15 heures, je préfère aller me reposer derrière la maison. Chaise longue, lit, bouche, à pic. 16 heures, silence. Ce qui veut dire, je suis allongé sur la plage. À 3 heures de l'après-midi, en août, par forte chaleur. Les grandes marées de l'océan ont laissé derrière elles des montagnes de varech, infestées de mouches. Passe une fille d'environ 22 ans, maillot de bain et t-shirt bleu-vert. Elle regarde la situation brûlante au soleil. On on est presque seul. Elle m'adresse la parole pour déplorer l'état des lieux. Elle dit qu'elle préfère aller se reposer derrière la maison, chez elle, à l'abri. Elle s'en va en se retournant deux fois. Son t-shirt, de dos, porte, écrit en grosses lettres bleu sombre, Sumatra. Bien entendu, je me lève. Je la suis de loin sur la digue. Elle rentre dans sa villa, s'installe sur une chaise longue, sur l'herbe, se met complètement nue. J'arrive. Ici, il faut faire le pari que le message était sans ambiguïté, donc qu'elle est seule, que sa famille est partie au village. Pas un mot. On passe directement à l'intérieur. Sa chambre, le lit, action. À peine quelques chuchotements à l'oreille. Moi, pour demander combien de temps on a. Une heure, je crois. Je préfère aller me reposer derrière la maison et une heure, je crois, c'est tout ce que je vais savoir de sa voix. Plutôt grave, ferme. Pas de nom, pas de prénom. Le corps à corps direct, immédiat. Bouche, ça veut dire fin extrême, de part et d'autre. Elle est jolie, mais sans plus, visage plat. Bronzée, savoureuse, parfaitement insignifiante, si on veut. Mais elle en a drôlement envie, c'est l'essentiel. À pic, lent orgasme commun en profondeur. À 16 heures, tout est fini. Je m'éclipse. Silence. Bonjour de la main. À une autre fois ? Même pas. Dans toute cette séquence, le signe clé va rester Sumatra. C'est lui qui me restitue d'un coup l'atmosphère de chaleur et d'eau, l'été sans bord, la gratuité de l'aventure, le déclic de porte qui s'ouvre enfin dans la mer du temps, l'appel d'air du désir, le goût d'une peau.
Il me semble que l'idée de fonder une société secrète doit naître presque automatiquement dans des époques de mutation sociale extrêmement problématiques. Il me semble que nous en vivons une comme celle-là, c'est-à-dire où plus rien n'est stable, où les valeurs sont effondrées, où il n'y a plus d'horizon communautaire ou collectif possible. Et aussi, peut-être parce que nous sommes à un tournant tout à fait obscur de l'histoire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce livre est écrit en parallèle avec une réflexion sur le XVIIIe siècle, où justement l'effondrement de tout un monde a donné lieu à un foisonnement de réseaux parallèles, plus ou moins discrets ou secrets, où les gens se regroupaient à la fois pour réfléchir et pour se communiquer des informations qui n'étaient pas forcément en circulation officielle. Il y a eu des sociétés comme ça de pensée, et moi je pense plutôt, dans le cœur absolu, à une société de sensations plutôt qu'une société de pensée.